Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Pierre-François Lelouette. Cher Pierre-François, je suis très heureux d'être avec toi à nouveau une énième fois dans ce podcast Entreprendre dans la mode. Cet épisode aujourd'hui, on le fait pour marquer la fin de ton mandat de président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Juste, je le dis en intro, c'est un épisode qui bénéficie du soutien du Défi. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Clarisse Rey du Défi. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de revenir sur ces 6 années passées à la tête de la Fédération pour faire un bilan. Mettre un coup d'œil dans le rétro pour prendre un petit peu de hauteur, pour mieux se projeter dans les 6 années qui viennent aussi, donner un peu de perspective à tous ceux qui nous écoutent. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a avec Mathias Déon, qui est en charge de la com à la Fédération, demandé à plusieurs personnalités de l'industrie de la mode avec qui tu collabores ou que tu as collaboré pour te poser quelques questions. Tu les as pas eues en amont, donc ça va être très spontané.
Je sens qu'on va passer un bon moment là.
Exactement. Mais avant de laisser... la parole à ces personnalités, moi j'aimerais bien que tu reviennes d'abord sur le rôle de la Fédération du prêt-à-porter et sur le rôle de son président, que tu nous expliques comment le président il est élu, pour combien de temps et toi pourquoi t'as voulu être président.
Bonne question tiens. J'ai voulu être président de cette organisation que j'aime beaucoup, la Fédération française du prêt-à-porter féminin, parce que j'en étais administrateur, donc je faisais partie du conseil et depuis déjà quelques années, et je trouvais que tout ne tournait pas toujours très rond. Et plutôt que de m'énerver sur mon siège, j'ai déjeuné avec un copain. Il m'a dit « Écoute, c'est le moment de prendre le pouvoir parce que après, on sera trop vieux pour pouvoir le faire, on n'aura plus l'énergie. » Je me suis dit « Ben finalement, pourquoi pas ?» Et à l'issue de ce déjeuner, je me suis dit que c'était le moment. Et gentiment, le conseil d'administration de l'époque donc m'a élu à l'unanimité et j'ai passé 6 belles années à la tête de cette organisation qui rassemble plein de marques partout en France, puisque la fédération est composée de 6 syndicats régionaux. Les marques adhèrent à ces syndicats, les syndicats adhèrent à la fédération et mon rôle c'est à la fois de représenter toutes ces marques de mode qui sont essentiellement des PME, des marques indépendantes, qui ont quelques années d'existence parfois ou qui se lancent depuis quelques temps et qui parfois sont très installées, qui peuvent être petites, qui peuvent être grandes, qui peuvent être vieilles, qui peuvent être jeunes, qui peuvent être très RSE, et ça de plus en plus, ça devient un prérequis d'ailleurs. Voilà, donc 600 marques partout en France et le rôle du président, c'est de porter leur voix.
Porter leur voix auprès de...
Auprès de tous les organismes qui sont intéressés par la mode, que ce soit bien sûr la présidence de la République, le cabinet du Premier ministre, les différents ministères, les différentes administrations, l'Assemblée, le Sénat, et puis surtout de les accompagner. Donc on a développé beaucoup d'opérations pour faire qu'elles fassent plus de business et qu'elles le fassent de manière plus raisonnée pendant toutes ces années.
Alors tu as été élu sur un programme, enfin sur 2 programmes, parce qu'il faut le dire, c'est un mandat qui est pour 3 ans, renouvelable, pas renouvelable, parce qu'à chaque fois tu es réélu.
Ouais, j'ai été réélu une fois, donc j'ai fait 6 ans de présidence à la tête de cette fédération. Je ne me représente pas. Et puis j'ai le sentiment que la mission est accomplie et qu'on a bien tous travaillé. Voilà.
Très bien. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous avez accompli pendant ces 6 années, marquées par de nombreuses crises? Tu le disais en préparation, c'est que il y a eu un avant et un après, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. C'est quand même parti un peu en vrille cette histoire-là.
Ouais. Le monde d'il y a 6 ans est très 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 différent du monde que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que il y a 6 ans, j'avais fixé un certain nombre de priorités que j'ai reprises au deuxième mandat. Mais en gros, il y avait 5 grands axes. Un premier sur comment est-ce qu'on vend mieux la mode. Et c'est vrai que on a eu beaucoup d'actions sur comment réinventer le wholesale, travailler mieux avec les salons professionnels. J'ai initié au défi une grande étude sur les modèles économiques qui a été partagée auprès de milliers de chefs d'entreprise et qui a connu un retentissement absolument considérable. Il y avait un deuxième axe aussi très fort qui était la digitalisation, hein, l'accompagnement, l'accélération de la transformation numérique des entreprises. Et là aussi, on a beaucoup travaillé en développant ce merveilleux salon qui était Trafic sur toute l'innovation numérique. On a mis en place aussi beaucoup de subventions, les fameux plans d'amplification digitaux pendant le confinement qui là aussi ont bénéficié à des centaines d'entreprises, toujours avec le soutien du défi. Donc cette digitalisation, en fait, ça fait vraiment partie avec la RSE des deux grands axes, ouais, qui ont le plus transformé notre métier ces 6 dernières années. Mm-hmm. La puissance d'Instagram n'était pas la même, la puissance des communautés n'était pas la même, la structure des marchés, la puissance des plateformes wholesale n'était pas les mêmes, les showrooms digitaux n'existaient quasiment pas. Enfin bon, bref, un autre monde. Quoi.
Ouais, mais ce qui est fou, c'est que 6 ans, c'est pas très long finalement, et l'accélération a été complètement dingue, quoi.
Oui, bah oui, au gré des événements que tu as soulevé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'à la fois il y a eu il y avait des tendances qui étaient bien sûr déjà là, mais qui se sont beaucoup accélérées parce qu'il y a eu des événements, parce qu'il y a eu des crises qui ont permis leur amplification.
Très bien.
Donc il y a eu d'autres sujets aussi que j'avais mis dans les programmes initiaux, la question de l'accompagnement des jeunes marques.
Ouais.
Hein, on a là aussi donné un coup d'accélérateur considérable au programme Talent de la Fédération, qui est un petit bijou piloté par Priscilla Joko de Main de Maître. Mais qui implique beaucoup de professionnels de la profession que je tiens vraiment à remercier parce qu'ils travaillent tous bénévolement. Et c'est incroyable de voir la métamorphose des marques qui rentrent dans ce programme et qui, 12 mois après...
Ouais. Rappelle-nous en quoi ça consiste.
On s'est dit que pour construire les pépites de demain, il fallait tout donner, quoi. Ouais. Donc, on donne tout pendant 5 ans. À 5 marques pendant 12 mois. Et quand on dit on donne tout, ben il y a bien sûr un comité de suivi qui va les suivre pendant 6 ou 7 fois au cours de l'année. Il y a des coachs qui leur sont donnés, qu'ils voient tous les 15 jours. Il y a des experts qui viennent les renforcer, tout ça est financé par la fédération et le défi pour pouvoir les aider justement à se structurer partout où elles sont fragiles, que ce soit la structure de collection, la plateforme de marque, la production.
La finance.
La finance, bien sûr, créer un business plan, leur donner les outils comptables, leur donner les outils de suivi, travailler avec eux leur stratégie d'amplification numérique, tous les sujets sont couverts et on les renforce par des experts. Et donc c'est un programme qui est génial parce qu'elles sortent, elles ont des objectifs au départ que forcément elles surpassent au bout d'un certain temps. Et c'est vrai qu'on a eu Maison Château Rouge, il y a eu Loom, il y a eu Patine, il y a Martin Martin en ce moment, il y a Salut Beauté en ce moment.
Avenir.
Il y a eu Avenir, évidemment. Donc on voit, ce qui est super, c'est que c'est des modèles économiques qui sont extrêmement différents, des profils d'entrepreneurs qui sont très différents. Il y a eu Mi aussi, je me souviendrai toujours de la première fois où on a vu la fondatrice de Mi arrivée, elle était enceinte jusqu'au cou, elle en pouvait absolument plus, elle arrivait de Brest et on a vécu une aventure formidable, je crois, avec eux. Bien sûr, je me souviendrai toujours de ma première rencontre avec Aurel San, avec Youssouf Ofana de Maison Château Rouge. Voilà, tout ça, ce sont des éléments extrêmement stimulants et surtout utiles, utiles pour eux, utiles pour l'écosystème, utile pour nous tous qui sommes très fiers d'avoir vu le développement de toutes ces maisons.
Bien sûr, ouais. Excellent. Et d'ailleurs, le résultat, c'est que ces maisons, elles sont toujours là, elles ont outperformé ce que tu disais, surperformé par rapport aux objectifs.
Oui, ça c'est sûr.
Et vous avez réussi à les pérenniser sur le long terme.
Oui, pérenniser sur le marché. Certaines ont disparu, on ne va pas les citer. Pas beaucoup, heureusement. Et puis surtout, beaucoup ont vraiment surperformé.
C'est génial.
C'est extrêmement dynamisant. Voilà, donc il y avait un axe sur cet accompagnement des jeunes marques, et puis il y avait un autre axe sur l'international, parce que la fédération, c'est aussi en temps normal 450 opérations à l'international qui sont organisées, financées, c'est des showrooms organisés à Taïwan, à Tokyo, à Shanghai, dans beaucoup beaucoup de pays. Et donc, il s'agissait de moderniser tout ça, et on l'a fait vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides qui ont été développées sur la numérisation, bien sûr, de tout ce qui est de toutes les relations commerciales à l'international. Là, on lance des subventions aussi pour aider les marques à s'offrir des influenceurs internationaux, pour leur permettre d'être plus visibles sur Instagram à l'international. On a mis en place des showrooms digitaux, on a multiplié les formats. Enfin bon, la fédération que je connaissais il y a 6 ans, qui se contentait de subventionner des stands sur des salons professionnels à l'étranger, aujourd'hui a un panorama et un éventail de dispositifs qui est beaucoup plus vaste que simplement payer une partie d'un stand. Et c'est très utile parce que ça se répond. Enfin, il y a des effets boule de neige, tout ça qui sont super. Et puis le dernier axe que j'avais déjà identifié, hein, c'était celui de la RSE. C'était très nouveau, hein, le développement du RAM. Il y a 6 ans, je peux vous assurer qu'on n'était pas nombreux à en parler.
On n'en parlait pas beaucoup, c'est clair.
Vraiment pas. Je me souviens très très bien aussi des demandes de subventions que j'ai faites sur cette première étude sur la mode en France et la RSE auprès du Défi. Je me souviens aussi, hein, de certains regard un peu interrogatif de plusieurs administrateurs du Défi sur cette étude, qui pourtant ont décidé de la financer. Ça a été un starter absolument formidable, qui derrière a permis de structurer des choses extrêmement utiles pour l'ensemble de la filière, puisque aujourd'hui c'est évidemment un sujet crucial. On a mis en place là aussi des plans d'aide RSE, donc on donne des subventions aux marques pour qu'elles puissent se payer des consultants et qu'elles puissent avoir des actions concrètes dans leur marque plus vite. On a mis en place des guides sur les approvisionnements responsables, sur la communication responsable, sur plein de choses, énormément d'outils très concrets pour permettre aux marques d'être beaucoup plus responsables et d'envisager leur métier, celui de l'habillement, celui de la mode, sous un angle évidemment nouveau. Et il y a 6 ans, je peux vous assurer encore une fois qu'on n'était pas nombreux à être les avocats de cette cause. Il y en avait d'autres avant moi, hein, heureusement, les Elisabeth Laville, des salons également dédiés au sujet, le salon du Made in France. Enfin, il y avait évidemment plein d'autres personnes qui ont été cruciales dans cet environnement. Mais bon, moi, j'ai pris ma petite part, j'ai essayé en tous les cas. Et surtout, je suis très reconnaissant au conseil d'administration de la fédération d'en avoir fait aussi une priorité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de dissension sur ce sujet-là. Tous les administrateurs, tous ces patrons, tous ces chefs d'entreprise ont toujours considéré pendant toutes ces années qu'on devait avancer, qu'on devait faire plus, qu'on devait faire mieux. Et c'est toujours le cas.
Très bien. Et pour aller dans ton sens, je me rappelle parce que ce podcast a 5 ans, et il y a 5 ans, mes premières interviews, on n'en parlait pas du tout de la sustainability. C'est vraiment arrivé à ces moments-là. Donc, encore une fois, vous avez été hyper précurseur sur le sujet. Ça, c'était les axes du premier mandat. Il me semble que sur le deuxième mandat, vous avez encore rajouté des choses à cette liste-là.
Je ne sais plus ce qu'on a rajouté. Je sais ce qu'on a fait. Oui, en tous les cas, il y a eu aussi ce travail sur l'éducation qui a été incroyable. Avec
énorme.
La naissance de ce nouvel Institut français de la mode, hein, qui est né d'une coalition de l'ancien Institut français de la mode et de l'école de la chambre syndicale de la couture, à l'initiative de nos amis de la Fédération de la haute couture et de la mode, évidemment, qui ont souhaité, qui ont amplifié. Nous avons tous beaucoup poussé pour que cette école française puisse avoir enfin à Paris un écho totalement international. Et je pense qu'on peut tous se féliciter d'avoir un outil tel que celui-ci qui rassemble, et c'est le seul au monde, hein, 3 axes, le savoir-faire, le management et la création dans un seul établissement. À la rentrée prochaine, ce sera plus de 1000 étudiants à l'Institut français de la mode. Donc enfin, les professions se sont mobilisées pour qu'on ait un établissement d'ampleur internationale à Paris, et c'était évidemment un projet formidable. Voilà. Et puis surtout aussi, peut-être pendant toutes ces années, et c'est vrai que ce qui a permis, hein, tout ça, en dehors bien sûr du soutien indéfectible de cet organisme de financement qu'est le Défi, ça a été un travail entre les fédérations beaucoup plus proche. C'est-à-dire que nous tous, ben, on s'est soutenus, on a travaillé ensemble, nous avons appris à travailler ensemble, on a mis en place des organes de gouvernance comme le comité stratégique de filière Mode et Luxe présidé par Guillaume de Seine, qui nous permet à tous de nous focaliser sur des priorités et bien sûr beaucoup des projets dont je vous ai parlé faisaient partie de ces priorités, mais qui ont permis de les amplifier. Par exemple, sur l'accompagnement des jeunes marques, nous, on avait le programme Talent, mais on voyait bien qu'il fallait aussi un autre outil pour les marques un petit peu plus anciennes. Donc, on a mis en place l'accélérateur BPI Mode et Luxe pour les marques qui font entre 2 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là aussi, maintenant, c'est la troisième promotion de cet accélérateur qui a fait, bien sûr, ses preuves. J'ai été très heureux de pouvoir aussi y participer, d'initier son existence. On a fait le Forum de la mode. Il n'y avait pas de manifestation, la mode n'avait pas de tribune, ne pouvait pas être écoutée par les pouvoirs publics parce que nous n'avions pas de tribune. Maintenant, nous en avons une et elle est soutenue par le ministère de la Culture, par les ministères de Bercy. Et donc, on peut vraiment s'en réjouir parce qu'enfin, on peut dire haut et fort ce qui va et ce qui ne va pas. On peut alerter la profession aussi de manière plus solide sur les enjeux. On a des enjeux énormes en ce moment sur les métiers. C'était le sujet du dernier forum de la mode, sur tous les nouveaux métiers que la mode a créés ces dernières années et qu'elle va créer dans les années à venir. Voilà.
Très bien. Super. Passons au deuxième chapitre, les questions posées par nos...
Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui pose des questions là? Je pensais que c'était Adrien, moi, qui posait des questions.
Non. Je me fais accompagner aujourd'hui.
Bonjour Pierre-François. Une petite question pour toi. Que serait ton avatar dans un métaverse? J'attends avec impatience ta réponse.
Il faut que tu devines qui c'est aussi.
Mais ça, je sais que c'est Clarisse. Je sais que c'est Clarisse Rey, la directrice générale du Défi, avec qui j'ai adoré travailler pendant toutes ces années. On peut être heureux d'avoir un organisme comme celui-ci qui permet de soutenir beaucoup d'entreprises dans notre secteur. Alors, quel serait mon avatar? Ça, c'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Mon Dieu, mais c'est des questions pièges à chaque fois comme ça.
Ça va être très difficile à chaque fois.
Mon Dieu. Quel serait mon avatar? Peut-être un pêcheur breton.
Ok, voilà. Un pêcheur breton.
Parce que dans les métaverses, les emplacements au bord de la mer sont souvent les plus prisés. Et autant être sur la mer, finalement, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un joli point de vue sur le monde et sur la terre ferme.
Mais qu'est-ce que le métaverse d'ailleurs?
Qu'est-ce que le métaverse? Ça fait sans doute partie des nouveaux enjeux de notre secteur. Clarisse en parle souvent et en parle bien. C'est une nouvelle extension du monde qui va permettre une nouvelle relation aux clients, aux consommateurs, aux communautés. Et tout l'enjeu va être de fluidifier tout ce qui se passe entre le monde physique, entre ce qu'on appelle le Web 2 et globalement les e-shops, et puis ce Web 3 qui arrive avec tous ces environnements immersifs qui permettent d'exprimer les marques et de développer une relation avec ces marques d'une manière complètement différente et extrêmement séduisante. Donc là, il y a un nouveau monde qui s'ouvre, c'est celui du métaverse ou des métaverses, parce qu'il y en a plein. Tout le monde expérimente pour le moment et c'est super parce qu'on découvre un nouveau monde.
Ouais. Et par quel bout il faut le prendre d'après toi? Vers quel qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il faut lire pour comprendre ce monde? Quelqu'un qui ne connaît rien au métaverse, tu le prendrais dans quel sens toi?
Alors moi par le sens le plus pragmatique, c'est-à-dire expérimenter quoi. Ouais. Aller voir ce qui se passe sur The Sandbox, enfin faut y aller quoi, faut pas simplement lire, faut
ouvrir un compte Instagram.
J'espère putain qu'on l'a vu tout ça. Faut y aller quoi.
Oui,
donc faut aller voir ce qui se passe sur CryptoVoxel, faut trouver les plateformes qui nous ressemblent, se confronter à toutes ces expériences, faut regarder, faut prendre du temps pour regarder ce qui se passe.
Très bien. Magnéto.
Cher Pierre-François, je suis ravie de te poser cette question aujourd'hui qui anime souvent nos échanges. Sur ces dernières années, le marché a accéléré sa mutation. Polarisation sur des leaders d'un côté, éclatement sur de très nombreux petits acteurs, développement du digital pour la distribution, la communication et maintenant la création, responsabilité environnementale et sociale. Dans ce contexte, pour toi, quelles sont les clés de succès pour que de nouveaux leaders se démarquent, se développent et s'inscrivent sur la durée parmi l'ensemble de nouvelles marques et initiatives qui voient le jour?
Donc là, c'était
Alix Morabito
de
Gary Lafayette. voilà, Alix est une personnalité que j'aime beaucoup. Vous avez bien choisi vos interlocuteurs pour le moment, hein. Qui a un joli rôle au Gary Lafayette et qui est une très fine observatrice de ce monde de la mode et un soutien du programme Talent depuis très longtemps. Alors les qualités pour émerger, Alix a tout dit dans son introduction, elle a parlé de digitalisation, donc il faut des personnalités qui incarnent les marques, qui comprennent très bien comment ce monde du numérique, du digital, de la construction des communautés fonctionne. Il faut des personnalités qui incarnent la RSE aussi et des engagements extrêmement forts. Il faut aussi des gens qui aient du talent. Il faut aussi des gens qui savent bien construire une marque, des codes, arrêter de vouloir faire de la nouveauté pour de la nouveauté, mais construire une aventure pas à pas, la faire grandir, regarder de temps en temps derrière, mais regarder surtout devant. Je suis très positif, moi, sur l'avenir de notre secteur, parce que la mode, c'est la réinvention permanente et l'humanité, la création, c'est l'innovation. Donc il y aura toujours des nouvelles marques, des nouveaux entrepreneurs dans notre secteur, des nouvelles manières de voir le monde, des nouvelles esthétiques qui porteront des messages extrêmement forts. Et voilà, c'est un peu tout ça. Pas regarder trop les modèles. Moi, je pense pas qu'il faut regarder trop de littérature quand on est un entrepreneur et quand on est un créatif. Faut y aller, là, encore une fois. Il faut tester, se confronter au marché et suivre son cœur.
Très bien, merci beaucoup. Une troisième question.
Bonjour Pierre-François, j'espère que tu vas bien. Alors je sais que parmi tes activités ou tes passe-temps, tu collectionnes de l'art. Et je voulais savoir, dans ces derniers mois, quelles étaient les découvertes artistiques ou plus largement créatives qui t'avaient enthousiasmé. Voilà, à bientôt.
Alors ça, c'est l'ami Paul Mougineau, je crois. C'est ça?
C'est ça, oui. Paul Mougineau de Il est inclassable, celui-là.
Parce que Paul est inclassable, mais ouais. Paul est un entrepreneur incroyable, hein, qui avait fondé cette start-up Daco qui faisait du data pricing, notamment, qu'il a revendu à Vond Privé. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur aussi dans le métaverse, c'est un entrepreneur dans la data, enfin, c'est un artiste aussi qui a une pratique incroyable et oui, donc j'aime l'art contemporain. Dès que j'ai un petit moment, je parcours les galeries d'art parce que j'aime être confronté à la création, comme je le suis d'ailleurs dans le domaine de la mode et dans celui du prêt-à-porter. Alors, parmi mes dernières acquisitions, j'en ai fait une hier soir parce que j'ai un ami. Voilà, galeriste qui m'a appelé en me disant « il faut vraiment que tu viennes voir, et il me reste plus beaucoup de choses déjà ». Et c'était une artiste que je suivais déjà un petit peu, mais qui est une jeune artiste qui s'appelle Anastasia Bay, et qui a fait une série extrêmement belle, visible à la Galerie de Rouillon en ce moment, sur des cariatides. Et j'ai donc brisé ma tirelire pour pouvoir... m'offrir une petite œuvre de cet artiste que j'aime beaucoup, qui est extrêmement figurative et qui propose là, en plus, elle avait tout un semainier, enfin, les cariatides, c'est aussi toutes les légendes, c'est la tragédie grecque, enfin, c'est toute cette antiquité qui revient au galop aujourd'hui et qui me touche beaucoup. Et puis je suis obligé de parler de la pratique de Paul Mougineau parce que c'est aussi, j'ai acheté une petite œuvre de ce cher Paul qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et la création, sous le nom, avec son collectif Horace Vétier, qui a fait une exposition magnifique à la galerie Gismondi il y a très peu de temps, qui a travaillé des choses magnifiques avec Gucci également. Et là, c'était une broche pensée à partir de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est une intelligence artificielle retravaillée par des artistes qui a fait de nouvelles formes extrêmement touchantes.
Mmh. Pourquoi c'est important d'être confronté à l'art comme ça ? C'est vraiment de la passion personnelle ou tu l'intègres aussi dans ton travail quotidien, etc.
Non, moi, je l'intègre toujours dans. Vous savez que j'ai cette autre casquette chez Nelly Rodi, mais chez Nelly Rodi, on commence toujours nos comités de direction par un geste créatif. Mmh. Voilà. Donc la directrice de création nous présente toujours son coup de cœur du moment.
Très bien.
Et je pense que dans nos métiers, dans nos secteurs, ce qui est fondamental, c'est la création, c'est l'innovation, c'est tous ces gens, tous ces êtres, tous ces artistes qui, avec d'autres choses que des mots et avec des signes différents que la plupart des gens, arrivent à créer une chose nouvelle que l'on n'a jamais vue et qui nous émeut, nous touche, a du sens, etc. Donc, et c'est ça qui m'intéresse toujours. Donc, j'ai toujours été intéressé par ça.
Ouais. Et l'art, c'est l'avant-garde, finalement.
L'art qui m'intéresse, c'est bien sûr un art d'avant-garde, mais c'est d'expérimenter, c'est la jeunesse, c'est quand les artistes sont plus installés, d'abord j'ai plus assez d'argent pour pouvoir me les offrir, et puis de toutes les façons ça m'intéresse moi. Donc voilà, ce qui est chouette, c'est de découvrir, c'est d'être aux côtés, c'est de faire les premiers pas avec eux, d'être confronté parfois à leurs doutes, de les rencontrer et de suivre leur pratique artistique, ce que j'aime beaucoup toujours.
Très bien. Magnéto ?
Est-ce qu'une rencontre t'a particulièrement marqué pendant ces 6 dernières années ?
Ça, c'était court, mais ça doit être Régis Pénel de l'Exception, c'est ça ?
Bravo !
C'est le polytechnicien de la mode.
Très bien,
pas
ok. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais.
Et lui aussi, qu'est-ce qu'il a ?
Pour l'instant, ils sont tous passés sur Entreprendre la mode.
Bravo.
Je tiens à le souligner quand même.
Félicitations. Est-ce qu'il y a une rencontre qui m'a marqué ? Il y a une réponse facile à faire et une réponse un peu plus un peu différente. Alors je vais faire les deux. Alors je vais faire la réponse facile. Moi, j'ai été très touché par ma rencontre avec Aurel San sur Avenir. Pas parce que c'était Aurel San, pas parce que j'aime beaucoup tout ce qu'il dit, dans ses chansons, dans tout ça. Évidemment, c'est un immense artiste, etc. Mais parce que quand il est passé dans le programme Talent, quand sa marque avait besoin d'aide parce que la mode c'est pas son truc hein, quand même à lui, et que il était entouré aussi d'une équipe qui était un peu plus expérimentée bien sûr que lui dans la mode, mais qui avait comme beaucoup de gens besoin d'un peu plus de structuration. Ben il était là en fait. Il était là comme les autres. Le matin, il avait fait un concert la veille, et surtout il connaissait ses chiffres par cœur. Il savait ce qu'il venait chercher, pourquoi il avait besoin de ce programme, comment on allait pouvoir l'aider, avec beaucoup d'humilité. Et j'ai été extrêmement séduit, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et au-delà, son équipe est formidable, sa marque est formidable. Myriam, qui dirige Avenir, est évidemment géniale. Ça fait partie de ces générations de femmes entrepreneurs qu'on aime toujours beaucoup soutenir également. Et puis surtout, il incarne une version de la pop culture qui dans notre secteur a pris bien sûr beaucoup de voix ces dernières années, mais qui encore une fois, il y a 3 ans, il y a 4 ans, était parfaitement inaudible. Enfin, avant Virgil Abloh, on prenait pas vraiment le streetwear au sérieux, quoi. Et maintenant, on voit bien que ça fait partie des segments du marché qui fonctionnent le mieux et où il se passe les choses les plus intéressantes. Voilà. Et puis alors, l'autre version moins facile, parce qu'elle est plus... comment dire, elle sera moins précise, c'est que jusqu'avant le Covid, on organisait beaucoup d'afterwork à la Fédération. Et sur des sujets précis, justement, pour renforcer, on faisait intervenir des experts et puis des gens, n'importe qui, les adhérents, pas les adhérents, les membres, pas les membres, enfin, venaient, se rencontraient, etc. Et c'était l'occasion toujours de faire des rencontres, mais insensées. Et ça, j'ai adoré ça. Donc, c'est pas une rencontre, c'est plein de rencontres. Mmh. C'est la femme ou l'homme qui a déjà une première vie professionnelle et qui veut se lancer dans les foulards et qui sait pas comment faire. C'est une personne atteinte d'un handicap assez sévère qui se lance dans la mode et qui se défonce, mais qui fait tout ce qu'elle peut et qui fait les choses super bien. C'est des petits entrepreneurs qui se lancent, qui sortent de l'école. Enfin, donc c'est cette espèce de galerie de caractères en fait qui fait la richesse de notre métier. Moi, c'est ça qui me séduit beaucoup, c'est que c'est des espèces de rencontres permanentes en fait. Ouais. Et alors, en tant que président, on peut pas toujours entretenir ces relations, mais chacun d'entre eux m'a laissé un souvenir vraiment chouette.
Chouette. Magnéto.
Bonjour Pierre-François. C'est déjà un grand bravo que je voulais partager avec vous. On a l'occasion de se croiser tous les jours, mais rarement de parler de la fédération. Je vous côtoie dans un autre cadre. Et c'est extraordinaire tout ce que vous avez fait depuis 6 ans avec une équipe vraiment formidable à vos côtés. Moi, ma question, c'était de savoir, dans tous ces projets qui ont été menés ces 6 dernières années, lequel vous a rendu le plus fier ?
Ça, c'est Marie Dupin. Marie qui est en vacances aujourd'hui, d'ailleurs, et qui dirige le pôle conseil de Nelly Rodi, qui est quelqu'un avec laquelle j'adore travailler, elle le sait. Merci Marie pour ces gentils mots, c'est très touchant. C'est d'autant plus touchant que quand je suis chez Nelly Rodi, je parle très peu de la fédération, en fait, parce que j'ai toujours souhaité qu'il y ait un mur qui soit bien établi entre les deux organisations, et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, et il n'y en a pas eu pendant 6 ans. Donc je suis extrêmement fier. À chaque fois qu'il pouvait y avoir un conflit d'intérêts dans tous les conseils d'administration où j'ai été, j'ai toujours refusé de voter, je me suis abstenu et j'ai toujours laissé les autres prendre les décisions, que ce soit concernant Nelly Rodi ou que ce soit les sociétés dans lesquelles Nelly Rodi a des participations. Alors, bonne question, ma chère Marie, comme toujours. Moi, il y a un moment extrêmement fort dont je me souviendrai, je crois. Je sais pas si c'est le moment dont je suis le plus fier, mais c'était un déjeuner avec Régine Atchondo, qui était à l'époque la directrice de la création artistique, c'est-à-dire une des administrations de l'État, une des 15 administrations de l'État qui dépend du ministère de la Culture. Et Régine est une extraordinaire professionnelle, et on déjeunait tous les deux dans un petit restaurant du Marais, et elle me disait « qu'est-ce qu'on peut faire pour la mode ?» Et j'avais pas réfléchi à ça, je me trouvais un peu bête et con, et j'ai dit « mais en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de symbolique. Et il y a un symbole qu'on n'a pas fait, c'était la mode à l'Élysée. » Et elle a décroché son téléphone, elle a appelé les conseillers de l'Élysée, elle a dit « il faut qu'on organise un dîner à l'Élysée avec les créateurs de mode pour la mode, etc. » Et c'est vrai que la famille de la mode reçue à l'Élysée, symboliquement, c'était extrêmement fort. Toutes les composantes de la mode, du plus luxe au pas luxe, enfin je me souviens, Youssouf était là, Guillaume Gibaud du Slip français était là, Lisa de Make My Lemonade était là, aux côtés des plus grands créateurs et designers de la planète. Ce geste symbolique du président Macron a été extrêmement puissant. Nous n'avions pas cette reconnaissance institutionnelle. C'est le dernier qui avait fait un vague cocktail, c'était le président Mitterrand au début des années 80. Et je pense que ce moment-là, en fait, au début du quinquennat Macron, a été un moment extrêmement fort pour l'ensemble de la communauté de la mode qui s'est sentie soutenue, reconnue par un gouvernement comme elle ne l'avait pas été depuis très longtemps. Voilà.
Très bien.
Après, les autres choses, il y a une autre chose dont je suis assez fier aussi, c'est quand même d'avoir beaucoup soutenu pour que les marques de mode puissent bénéficier de subventions sur la fameuse liste S1 bis pendant le Covid. On sait tous que ça a été un tsunami pour beaucoup d'entreprises. Et donc le fait d'obtenir quand même des soutiens financiers plus élevés de la part du gouvernement, ça a été une bataille, pas simplement de moi, mais de beaucoup d'autres. Et on l'a obtenu et on peut en être très fiers. Je pense que ça a sauvé beaucoup de marques.
Ouais. Toi, tu étais en contact direct avec Bruno Le Maire, avec, avec Monsieur Macron, enfin Emmanuel Macron.
Écoute, direct, je ne sais pas si on peut dire direct. Le travail se fait beaucoup avec les conseillers, les rencontrer, oui, ça s'est fait, bien sûr, à plusieurs reprises, au cours de plusieurs événements. La ministre Agnès Pannier-Runacher, évidemment, à l'industrie qui a beaucoup fait. Olivia Grégoire, également, à l'économie sociale et solidaire, qui a beaucoup fait. Donc oui, on est en contact avec elles, on les rencontre, mais surtout on travaille derrière.
Ouais.
Donc, et c'est pas comme si les sujets manquaient pas.
Magnéto ?
Ou manquaient.
Bonjour Pierre-François, une petite question pour toi. Avril 2022, félicitations, tu viens d'être élu président de la République. Bravo, vraiment, pour cette magnifique bataille. Maintenant, quelle va être ta première décision pour le secteur de la mode? Merci.
C'est le retour de Clarisse.
Ouais.
Première décision pour le secteur de la mode si j'étais élu président de la République. Eh bien, je crois que ma première mesure en faveur du secteur de la mode, qui a bénéficié de plein de choses hein, avec le gouvernement Macron, mais par ailleurs pas assez à mon goût. Hein, on pense que l'hydrogène, c'est 7 milliards d'euros d'investissement dans le plan de relance, la santé, c'est 4 milliards, etc. Eh bien, moi, compte tenu des enjeux, je pense que je mettrais 1 milliard dans de la recherche et des usines pour recycler les fibres. Voilà. Aujourd'hui, les enjeux RSE sont absolument colossaux dans notre secteur. On recycle pas du tout assez. On n'a pas toujours les solutions pour pouvoir le faire. Il n'y a pas d'usine en France pour pouvoir le faire. Eh bien, il faut absolument trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut de l'argent. Voilà. Donc, il faut des sous. Il faut aussi des industriels qui aient envie de partir à l'attaque de ce sujet. Mais qui, pour moi, est un sujet absolument considérable. Il va quand même falloir à un moment donné qu'on trouve des moyens d'utiliser beaucoup moins de ressources naturelles de notre planète, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de vêtements sur le marché dont beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Donc voilà, trouver des solutions technologiques et investir dans l'industrie.
Et la recherche. Ouais.
Et la recherche.
Cher Pierre-François, si tu devais recommencer ton mandat à la tête de la Fédération au premier jour, mais cette fois dans le Metaverse, qu'est-ce que tu changerais au programme? Qu'est-ce que tu changerais à l'algorithme?
C'était Nicolas Parpex de la BPI, c'est ça?
C'est bien ça, bravo.
Eh bien, Nicolas, merci pour cette question. Mais dans le métaverse, comme dans la vraie vie, je ne recommence rien, en fait. Donc, je sais pas trop quoi répondre. Moi, je pense que je ferais plein de trucs parce que le métaverse, comme je le disais tout à l'heure, on en est encore à ses balbutiements. On sait pas très bien comment manier le sujet. Donc, en tous les cas, j'irai. Nelly Rodi a déjà un très bel hôtel particulier au bord de la mer, évidemment, dans un des métaverses. Mais si demain je recommençais quelque chose, que ce soit dans le métaverse ou que ce soit dans la vraie vie, c'est vraiment le truc qui m'a manqué, c'est que je trouve qu'on n'a pas fait assez pour les entrepreneurs qui viennent des banlieues. Voilà, on n'a pas fait assez pour la diversité dans notre secteur, on n'a pas fait assez pour tout ça. Donc je trouverais peut-être un moyen, et c'est peut-être pas idiot d'ailleurs d'utiliser le métaverse pour les engager un peu plus encore dans notre secteur et trouver les moyens de les aider. Voilà.
Je rebondis sur ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour plus de diversité dans notre secteur, dans la mode?
On peut donner encore plus de bourses, par exemple, à des gens qui n'ont pas un rond. Et parce qu'on sait que faire des écoles de mode, notamment de création, ça coûte beaucoup d'argent. Même si à l'IFM, il y a vraiment beaucoup de boursiers. Vous savez que la fondation IFM finance énormément de bourses à l'Institut français de la mode, mais il n'y a pas que l'Institut français de la mode sur Terre. Donc faudrait faire ça, faudrait que des entrepreneurs de la mode sortent de Paris pour aller voir ce qui se passe en banlieue, aillent dans les écoles, aillent dans les banlieues, passent un peu de temps. Moi, je ne l'ai pas fait assez. Ça, c'est mon regret.
Ouais.
Voilà, d'aller sur ce terrain-là, parce qu'il y a beaucoup d'associations sur le terrain, notamment de couturières, etc., qui existent dans un certain nombre de villes de banlieue. Voilà, faut les intéresser à notre secteur beaucoup plus parce que l'énergie vient toujours de la périphérie et rarement du centre.
Très bien. Magnéto.
Cher Pierre-François, ma question est simple et courte. Quel est l'événement, hors Covid évidemment, dans notre secteur qui t'a le plus marqué lors de tes 6 ans de règne? Je t'embrasse.
C'est Éléonore Baudry de Figaret, qui est une femme chef d'entreprise d'exception, que j'ai connue il y a très 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 longtemps, dans une autre vie. Alors, Éléonore, le mot règne est un mot que je n'utilise pas.
C'est vrai que j'ai été surpris aussi.
Je ne souscris pas du tout à cette vision des choses. Vive la République. Mais voilà. Alors, pendant mon mandat, s'il y a un autre événement en dehors du Covid qui m'a marqué, je dirais vraiment c'est cette révolution de la RSE, quoi. Ouais. Et ça, on ne le redira jamais assez. Je pense que l'on sous-estime encore beaucoup toutes les transformations qui vont être impliquées par les législations qui sont en train d'arriver au niveau français et au niveau européen, et par surtout le changement des comportements de consommation qui va être extrêmement brutal, mais pour le meilleur, dans ce domaine. Mmh. Voilà.
C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Je trouve qu'on se rend pas vraiment compte de la violence des choses qui vont arriver. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer là, dans les 3 prochaines années?
Ce qui va se passer dès maintenant, c'est par exemple la loi AGEC, hein, qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Les décrets d'application, je crois, viennent de sortir en joli pop-up. Et donc, maintenant, il va falloir afficher sur toutes les étiquettes. À partir du 1er janvier 2023, il y aura sans doute des amendes. Les étapes de fabrication du vêtement, le pourcentage de fibres recyclées, énormément d'informations pour éclairer le consommateur dans ses choix. Mmh. Et parfois, lui faire prendre conscience que quand il achète un vêtement, c'est effectivement pas bien pour la planète. Voilà. Et ça, c'est très concret, en fait.
Hein. Ouais, c'est 2023, donc c'est demain.
2023, beaucoup de vêtements sont déjà fabriqués pour ceux qui seront sur le marché au 1er janvier 2023. Donc, il va falloir que tout le monde se remue vraiment les fesses. Il va falloir les sortir, qu'elles soient numériques, qu'elles soient physiques.
Il faut aller chercher où, ces informations-là? C'est AGEC.
C'est la loi AGEC, article 13 de la loi AGEC. Les fédérations là sont en train de travailler, tout le monde se coalise pour justement faire qu'il y ait une information qui descende très très vite là dans les jours et les semaines qui viennent auprès des marques pour qu'elles puissent être outillées. Mmh. Ça fait déjà à la Fédération du prêt-à-porter féminin au moins 1 an et demi que l'on alerte sur les risques et surtout sur toutes les opportunités qu'il peut y avoir à privilégier la transparence sur les étapes de fabrication, etc. Mais puis derrière, il y aura l'affichage environnemental, donc il y aura des notes, hein, comme dans la food, ABCDE, et là, il faut calculer tout ça. Là aussi, les fédérations Claris, ODEFI, OCSF, Modelux sont très investis sur ces sujets.
Ça tombe quand? 2023 aussi?
2024 peut-être, 2024, mais ouais. 2024 encore
c'est
une
demain.
Fois, c'est demain. C'est demain. Donc, et ça vaut aussi pour les vêtements qui sont importés. Donc, c'est pas juste du Made in France, là. On parle pas que de ça. On parle vraiment
de
changements systémiques extrêmement importants liés au développement durable, à l'environnement et demain à la gouvernance, au devoir de vigilance. Enfin, tout ça, ce sont des mots auxquels les chefs d'entreprise doivent vraiment s'intéresser aujourd'hui parce que ça va avoir des impacts extrêmement forts sur les modèles économiques de notre industrie. Mmh.
Passionnant. Magnéto.
Quelle est la rencontre qui t'a le plus épaté ces 6 dernières années?
Et ça, c'est Yann Rivoilan.
Bravo.
Ça, c'est Yann Rivoilan qui est fondateur de The Other Store, qui est très impliqué dans la vie de la fédération depuis plusieurs années maintenant, qui est administrateur de notre fédération, qui est un très grand spécialiste du numérique et qui est un ami. Et je suis très, très touché par le fait qu'il ait accepté comme ça d'être pendant toutes ces années, à la fois un fidèle, mais surtout un utile et très impliqué compagnon de route de la fédération sur de nombreux sujets. Quelle est la rencontre qui m'a le plus marqué? Je pense que c'est je pense que c'est les serviteurs de l'État. Je pense que c'est tous ces gens de l'ombre dont on parle jamais, qui sont extrêmement décriés, dans les administrations, dans les ministères, etc., et qui en font un boulot que personne ne peut imaginer, en fait. Et qui n'ont jamais la lumière. Hein. Eux, ils sont jamais décorés, on les voit jamais, etc. Mais je peux vous assurer que ils défendent notre industrie avec vraiment beaucoup de cœur. Ils proposent des réformes. Parfois, ils en contrent d'autres aussi quand ce sont des mauvaises idées. Voilà. Et moi, ça a été pour moi une jolie découverte. Mmh. Ce monde-là, que je ne soupçonnais absolument pas, hein, comme beaucoup de Français, moi, je peux vous assurer qu'on peut être très heureux d'avoir certains fonctionnaires et qu'être fonctionnaire, ce n'est pas un gros mot. Ça peut être extrêmement noble.
Très bien.
Après avoir raccroché votre casquette de président de la Fédération, comment allez-vous mettre à profit le temps libéré dans votre agenda ?
Alors ça, c'est une voix que j'adore et c'est une personne que j'adore. C'est mon assistante à la Fédération, c'est Claudine Berthemin. Et elle connaît mon agenda mieux que personne. Donc merci Claudine de vous être prêtée à ce jeu-là. Je suis très touché. Vous savez que vous êtes quelqu'un que j'apprécie énormément et vous allez beaucoup me manquer. En revanche, le temps ne va pas me manquer. J'ai plein d'autres sujets. Je vais pouvoir surtout passer du temps pour moi. c'est un peu l'objectif. Pour moi, pour ma famille, pour mon fiston, pour ma femme. C'était pendant 6 ans, vous le savez, 1 jour et demi par semaine de la fédération entièrement bénévole. Et donc, au bout de 6 ans, je suis un peu fatigué quand même. J'ai le droit de l'aide, je crois. Et donc, je vais m'occuper de moi. Et je vais commencer peut-être par perdre un peu de kilos, parce que j'ai pris 10 kilos en 6 ans. Et là, il est temps quand même qu'on passe aux choses sérieuses.
Ouais, voilà. T'as des charges, il y a eu le Covid, il y a eu plusieurs sujets quand même. Hein.
Oui, non, mais on a bossé. Hein, mais je suis très heureux que Claudine pose cette question, parce qu'elle est aussi... Enfin, c'est le porte-voix de toute l'équipe de la fédération, hein. Et elle a travaillé avec moi quotidiennement. Elle a toujours été disponible. Encore une fois, vous savez que je suis un peu amoureux de vous. Mais c'est toute l'équipe qui a été extrêmement mobilisée pendant toutes ces années. On a une équipe de gens de qualité, de gens extrêmement fidèles, de gens extrêmement investis. Ça a été pour moi une immense fierté d'être le président de cette équipe. Piloté bien sûr par François-Marie Gros, le délégué général, mais voilà, je veux pas tous les citer parce qu'ils se reconnaîtront, les anciens, les nouveaux, etc. Mais tout le monde a été absolument incroyable. J'ai pas cherché en arrivant à mettre en place une nouvelle équipe. J'ai pris l'équipe qui était là. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Je suis très heureux de les avoir tous côtoyés. Je suis très heureux d'avoir vraiment travaillé avec eux. Et surtout, je suis très fier du travail qu'ils ont accompli. Donc, ils peuvent tous se dire qu'ils font un job top. Voilà.
Super. Merci.
Bonjour papa, c'est Paul-Alexis. J'ai une question pour toi. À quoi il sert ton métier ? Parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris. Bah voilà, c'est ma question. Bisous.
Alors mon chéri, il a 10 ans, il s'appelle Paul-Alexis et c'est effectivement mon fiston qui a pas cherché à beaucoup comprendre, hein, pendant 10 ans quand même. et on n'en parle pas beaucoup à la maison non plus, je veux bien le reconnaître. À quoi sert mon métier ? Ben, écoute, je t'expliquerai plus en détail. Et puis, si tu as le courage d'écouter ce podcast, ben, tu l'écouteras. Voilà. Peut-être que tu comprendras un petit peu mieux.
Tu comprendras. Et puis, peut-être que tu écouteras aussi les 350 autres épisodes d'Entreprendre dans la mode.
J'espère.
Écoute, c'était donc la fin de ces magnétos. Merci infiniment d'y avoir répondu avec beaucoup de spontanéité. En troisième chapitre, on voulait parler des 6 prochaines années. Que tu nous donnes un peu de perspective. Parce que le monde est quand même complexe. Et de plus en plus complexe. Mmh. Et franchement, je trouve que quand t'es dirigeant d'entreprise, entrepreneur, etc., et que tu te lances dans ce secteur, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques pistes pour réussir et naviguer dans ces 6 prochaines années.
Alors, je serai plus président de la fédération, mais je serai toujours membre du conseil d'administration de la fédération, a priori, hein, donc je lâche pas l'univers de l'habillement et de cette fédération, bien sûr. Donc, je suis toujours intéressé par l'avenir de la mode. Et c'est vrai que le contexte change beaucoup, hein. On a une nouvelle régionalisation du monde qui s'est mise en place. qui est très différente. Le commerce international ne se fait plus de la même manière. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est beaucoup plus difficile d'en faire d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il y a ces nouvelles frontières qui sont montées, parce qu'il y a une nouvelle situation géopolitique qui évidemment est extrêmement inquiétante, parce que la pandémie n'est toujours pas terminée. On le voit en ce moment en Chine avec des conséquences absolument terribles. Et puis on voit aussi que la place de la France dans le monde, elle a beaucoup évolué. La désirabilité des marques françaises est peut-être un petit peu moins forte de manière générale.
Même c'est dû à quoi ça d'ailleurs ?
Enfin, je veux pas. C'est difficile. Là, je fais une petite généralité avec plein d'exceptions parce que les plus belles marques du monde sont des marques françaises. On le sait tous. C'est dû au fait qu'il y a maintenant partout dans le monde des marques qui existent, qui naissent. Il y a des marques chinoises. Il y a 10 ans, il y avait très peu de marques chinoises. Il y a des marques chinoises qui ont des ambitions internationales, qui réussissent plutôt bien leur implantation dans d'autres pays en Asie. Il y a des marques coréennes, etc. Donc il y a plein de pays, il y a plein de nouvelles. Ce ne sont pas des capitales, mais au moins il y a des villes de mode qui existent. Paris s'est renforcé dans son rôle de capitale internationale, mais il y a plein de micro-capitales régionales qui maintenant proposent une mode différente et souvent très proche des attentes des clients de ces régions. Ça, je pense que c'est évidemment un point qui est assez important. S'il y a un deuxième axe, c'est évidemment celui qu'on a déjà évoqué, celui du métaverse, de ces nouveaux mondes immersifs qui sont en train d'arriver, de qu'est-ce qu'on va y faire, e-commercer des produits physiques, e-commercer des produits intangibles, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière tout ça? Certaines marques semblent faire déjà pas mal d'argent avec ces métaverses, donc là on a un nouveau monde qui s'ouvre, il va falloir aller le creuser. Et comprendre comment en profiter le mieux possible. S'il y a un autre axe aussi, peut-être que sur lequel j'aimerais insister, c'est peut-être le mood de la société, qui est lié aussi à la montée de ces dangers géopolitiques, à la question de la RSE sur laquelle j'aimerais évidemment terminer aussi, mais c'est vrai que la mode est un peu moins frivole qu'elle l'était par le passé. Et donc, est-ce que la mode est démodée? Je le pense vraiment pas. Mais la mode a des concurrents qui sont très en phase avec un certain air du temps.
Comme quoi, tu penses?
Toutes les dépenses de loisirs, le jeu vidéo, le spectacle, le sport,
la food
évidemment. Et l'hospitalité en général. Il y a énormément de nouveaux secteurs qui sont extrêmement désirables et qui sont extrêmement créatifs parce que le champ de la création n'est plus uniquement l'apanage du secteur de la mode, que la création a investi énormément d'autres champs. C'est pour ça que j'ai aussi été très heureux d'être président de France Industrie Créative pendant 2 ou 3 ans. C'est qu'on voit bien que la création aujourd'hui, ça rentre dans beaucoup, beaucoup d'industries. Voilà. Et donc, il faut que la mode, à la fois se pose de vraies questions sur sa nécessité, sur son identité, sur son message dans la société. Et je pense que ça passe par, encore une fois, on n'en aura jamais autant d'en parler, mais la RSE, ça passe par la créativité, évidemment, par l'esthétique, mais ça passe aussi par le sens, le sens que l'on veut donner à notre métier, le sens et le rôle de la mode dans notre société. Voilà. Donc, et ça, ce sera la prochaine frontière. Ce sera évidemment les sujets qui vont obnubiler les chefs d'entreprise dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Donc l'avenir de la mode va évidemment se conjuguer aussi sur les questions de RSE, les questions environnementales, les questions sociales. Environnementales, il faut absolument réduire notre empreinte carbone, c'est une absolue nécessité. Il faut investir considérablement dans l'industrie pour faire en sorte que ce soit possible, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas assez possible. Il faut que les chefs d'entreprise aillent plus vite sur la transparence, sur l'éducation de leurs donneurs d'ordre, de leurs fournisseurs. Il faut aussi que les industriels européens, les industriels français soient ouverts à un dialogue avec les marques plus moyenne gamme pour permettre une relocalisation. Il faut que les marques aient une culture industrielle beaucoup plus forte parce qu'elles l'ont complètement abandonnée dans les années 90. Il faut travailler les enjeux de traçabilité, d'affichage environnemental, mais aussi tous les aspects sociaux, l'inclusivité, la diversité dans les tailles, des corps, etc. Il y a un nombre de sujets à traiter qui est très important. La nouveauté, c'est que tout vient en même temps, que c'est très difficile de hiérarchiser parce qu'il faut avancer partout. Voilà. Donc moi, je pense que ce sera extrêmement excitant les années qui viennent. Parce que c'est un champ totalement nouveau pour notre industrie qui s'ouvre. On va découvrir plein de trucs dans le métaverse, dans la RSE. Enfin, ça va être pour les chefs d'entreprise et pour nos équipes, des années extrêmement créatives. Voilà, il faut s'atteler au sujet et le faire avec confiance.
Eh ben écoute, merci infiniment. On finit sur ces bons mots. Est-ce que tu veux conclure? Moi, j'ai envie de te dire merci au nom de toute l'industrie pour ces 6 années. Et je sais pas, je te laisse le petit mot de la fin.
Eh ben, le mot de la fin, il est pour toi, Adrien, parce que à la fois comme interlocuteur qui permet à la fois aux personnalités du secteur de s'exprimer et en tant qu'entrepreneur qui a les mains dans le cambouis et qui sait ce que c'est que de diriger une marque de mode dans notre secteur, eh ben, je suis très admiratif. Voilà. Et tout ce travail qui est fait à la fédération, qui a été fait par moi, qui est fait par les équipes et qui sera fait par mes successeurs, il est fait pour des gens comme toi. Il est fait pour des marques et des entrepreneurs qui se lancent et qu'on a envie d'accompagner, de solidifier le plus possible. Et on espère que nos réflexions, nos échanges l'ont permis.
Très bien.
Et le permettront à l'avenir. Merci beaucoup, Adrien.
Merci beaucoup, ça me touche beaucoup et je te dis à très bientôt à ce micro, bien sûr. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.